Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une dame qui est en face de moi et que vous connaissez sans doute, surtout si vous regardez TF1 en tout début de soirée. Demain nous appartient, ça vous dit quelque chose ? Bonjour Charlotte Valandré.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Comédienne, écrivaine et désormais aussi chanteuse. D'ailleurs, on écoutera tout à l'heure un extrait de votre nouveau disque, votre premier album qui sera bientôt, et vous serez d'ailleurs bientôt en concert. Et donc, j'ai écrit votre histoire en m'appuyant sur deux de vos livres, L'amour dans le sang, au Cherche Midi.
Et celui qui suit.
Et celui qui suit. L'amour dans le sang a été un best-seller, il est paru en 2005, vous y avez révélé votre séropositivité.
Entre autres.
Et celui qui suit, c'est Deux cœurs inconnus, toujours aux éditions du Cherche Midi, paru en 2011. Dans lequel vous racontez votre grève du cœur et l'histoire absolument invraisemblable qui s'en est suivie. Tout ça, bah, ça fait une vie qu'on pourrait qualifier d'emmerdement maximum, mais ça serait, je crois, négliger votre énergie absolument incroyable. Donc c'est votre vie, la voici dans cette histoire que j'ai écrite avec Claude Mindibile. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Pour débuter cette histoire, je vous emmène sur une plage de Bretagne à l'été 1984. Une plage du Valandré, charmante station balnéaire des Côtes d'Armor. Comme ça, vous savez d'entrée comment Charlotte a choisi son nom d'artiste. Elle a vécu là, petite, maintenant elle y vient en vacances, bref. Elle est donc là, sur cette plage, le nez dans sa serviette à se dorer au soleil. C'est une ado, elle a 15 ans, jolie, les yeux bleus en amande, une belle chevelure bouclée. Et à un moment, au loin... sa mère l'appelle.
Charlotte ! Charlotte, il y a un télégramme pour toi !
C'est à ce moment-là que sa vie bascule. Charlotte rejoint sa mère sur la digue.
C'est quoi ce télégramme ? C'est qui ?
Bah regarde, Vera Belmont, réalisatrice de cinéma, veut vous rencontrer. Merci de prendre rendez-vous. Il y a un numéro 16 42 33 44 35. Étoile dans les yeux. Une réalisatrice de cinéma veut la voir. Il y a quelques mois, poussée par une copine, elle avait fait des essais pour un film de Robin Davis, hors la loi. Ouais, mais ses parents avaient refusé, ils avaient trouvé le scénario trop violent. Cette Vera Belmont a peut-être vu les images du casting. Et donc, la voilà, à Paris, pour ce rendez-vous, toute seule, hein. Elle a envoyé bouler ses parents.
« Je suis assez grande, ça va ?» Bonjour. J'ai rendez-vous avec Vera Belmont. Elle vous attend. Bonjour Charlotte.
J'ai l'air de lui plaire. Elle ne me quitte pas des yeux, elle me fait parler, elle me complimente. J'apprendrai plus tard que les gens des arts ont le sens du compliment excessif, comme un code, une surenchère, une exaltation.
Tu es spontané. Tu as une vraie nature, t'es comme moi quoi. T'as l'insolence des enfants qui n'ont pas peur. C'est important pour le personnage que je cherche. Elle s'appelle Nadia. Tu voudrais être ma Nadia ? Ben oui. En gros, c'est l'histoire d'une jeune militante communiste qui tombe amoureuse d'un journaliste. Toi, tu joueras la petite Coco. Ça s'appellera Rouge Baiser. T'es contente ? Ouais, vachement. Super contente, même. Tu t'appelles Charlotte Pascal, c'est ça ? Oui, pourquoi ? Faudrait te trouver un nom plus exotique, comme un voyage, tu vois. Quelque chose qui fasse rêver.
Et là, je vous ai déjà vendu la mèche. Toute seule, elle va choisir Valandré, comme la plage de Bretagne qu'elle aime tant. Le tournage de Rouge Baiser commence 3 mois plus tard, avec Lambert Wilson comme partenaire. Et une réalisatrice un peu rude.
Mais rentre chez toi ! T'es nul ! Pourquoi je t'ai choisi ? Il y en avait des centaines mieux que toi. Rentre chez toi, j'en ai assez vu. File.
Tout ça parce que Charlotte n'arrive pas à pleurer devant la caméra. À force d'engueulade, elle finit en larmes.
Coupez. Ma chérie, tu étais magnifique. Tout ce que je t'ai dit, c'est pas vrai. Tu sais bien que je le pense pas, voyons.
Ma chérie, bienvenue dans le monde du cinéma. En tout cas, Charlotte n'aura pas pleuré pour rien. Le film est un succès. La presse est dithyrambique. Charlotte Valandré, le nouveau visage du cinéma français. On l'entoure, on la fête, elle est invitée partout. Dîner, cocktail, on la regarde, on la photographie, on l'aime. Elle est heureuse. David Bowie, vous entendez ? David Bowie la veut pour son prochain clip. Un vrai conte de fées. Il ne manque plus qu'un prince charmant. Il arrive. Et donc maintenant, elle a un agent. Et tant qu'à faire, elle a le meilleur, Dominique Besnéard de chez Art Media, l'agent des stars. Et c'est lui qui lui dit un jour.
Charlotte, ma chérie, je veux te présenter l'homme de ta vie. Tu mets ta plus belle robe et tu nous rejoins au palace. Nous t'attendrons, ton prince et moi.
Charlotte, ma chérie.
Bonjour.
Charlotte, je te présente Johan. Johan, Charlotte.
Johan, c'est un musicien de rock, connu. Elle l'écoute en boucle. Quand vous connaîtrez la suite, vous comprendrez pourquoi je ne vous dis pas son nom en entier. Le visage pâle, les cheveux noirs corbeau. Ce soir-là, il a bu. Il est un peu bizarre. Il plane, transpire. Mais il lui plaît tout de suite. Je suis amoureuse. Je me donne corps et cœur pour la première fois. Johan part en tournée. Et Charlotte l'accompagne. Au retour, il disparaît pendant quelques jours, sans explication. Et quand il revient, il a l'air un peu perdu. Il a le regard un peu flou. Un ami l'a prévenu, hein.
Fais gaffe, Charlotte. Il se drogue, ce mec.
Elle s'en fiche. Elle est amoureuse. Et puis un jour, au cours d'une balade dans Paris, Johan lui dit
« Charlotte, faudrait qu'on fasse une prise de sang, ensemble.
Pourquoi ?»«
Bah pour savoir.
Je comprends pas.
Tu sais faire un test, quoi. Tout le monde fait un test maintenant.
Ah bon ? Ok.
Là, j'ai pas le temps, je pars au Festival de Berlin demain. On verra quand je reviendrai. »
Charlotte va à Berlin. Elle reçoit un ours d'argent pour son rôle dans Rouge Baiser. Et quand elle rentre, Johan lui en reparle. Et ils vont faire le test ensemble. Le résultat arrive par courrier. Sérologie VIH négative.
Bien. Elle en était sûre. Qu'est-ce qui peut arriver à 17 ans?
Mais la lettre du labo précise qu'il faudra refaire le test ultérieurement. Et ultérieurement, ce sera donc après son prochain film au Canada. Dans 2 mois.
Les passagers du vol Air France 712 à destination de Montréal sont priés de se présenter porte 15 pour embarquement immédiat.
2 mois sans Johan. Elle est toute triste. Un jour, pendant son tournage, Johan l'appelle.
Allô ? Charlotte ? C'est Johan ? Johan, tu viens me voir quand ?
Je viens pas, Charlotte. On va arrêter. C'est fini. C'est pas grave, hein ?
Pas grave ? Je suis largué, jeté, frappé pour la première fois. Je pense à mourir.
Thank you.
Quelque temps plus tard, une copine lui dit qu'elle va faire un test de sida.
T'as pris des risques ?
Non, pas vraiment. Mais j'ai couché avec quelques garçons sans capote, comme la moitié de Paris. Ok. Bah j'y vais avec toi parce que moi j'ai fait le test il y a quelques mois, on m'a dit de le refaire. Le résultat arrive 10 jours plus tard dans la boîte aux lettres. Un jour bizarre. Hein. Ce jour-là, elle vient de faire une photo pour un rouge à lèvres. Elle a gagné 200 000 francs en quelques heures. Elle rentre chez elle.
Tiens, ton courrier, ma chérie.
Elle ouvre la lettre. Sérologie VIH. Positive. Je suis paralysé. Ma tête se retourne à l'intérieur de moi. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi? J'ai pas eu le temps de grandir. On ne m'a rien dit. J'ai juste entendu 2-3 trucs à la télé. Je n'ai pas fait attention. Mais attention à quoi? À l'amour? Il faut se méfier de l'amour? Il faut se remettre dans le contexte. On est à la fin des années 80, il n'y a pas de traitement contre le VIH. Dans ces années-là, on lui donne quoi ? 3 ans. 3 ans d'espérance de vie. Pas plus. Quand Charlotte le dit à ses parents, son père cherche un coupable, et il est tout trouvé, Johan. Et sa mère la serre juste dans ses bras. Elle ne pleura pas devant moi, merveilleuse protectrice. Et la décision est prise.
Il faut rien dire, Charlotte. Rien. N'en parler à personne. Tu entends? À personne.
Le problème, c'est qu'elle va le dire. Elle le dit au réalisateur de son prochain film, Noce Blanche, Jean-Claude Brissot. Et Brissot le répète au producteur. Et le producteur...
Ah ben c'est pas possible. Hein. Avec le sida, on pourra pas l'assurer.
Je suis giflée, muette, stupéfaite. Je me remettrai mal de cette trahison, de ce coup porté. Je boiterai longtemps. Nous sommes en 1989. Les appels deviennent moins nombreux. Les projets deviennent flous. Le désir se tasse. Charlotte n'a même pas 20 ans. Dans les années qui suivent, Charlotte ne tourne plus pour le cinéma. Et pour tout dire, elle commence à douter de son talent. Cela dit, en 1991, elle a 23 ans, on lui propose un rôle dans une nouvelle série télé pour TF1. Les Cordiers jugés flics, avec Pierre Mondy dans le rôle principal. Au début, la production et TF1 n'en veulent pas.
C'est une emmerdeuse. Elle se drogue en plus, et elle va pas bien.
Jolie réputation. Mais le metteur en scène insiste. Et ça marche. Elle joue Myriam, la journaliste fille du commissaire Cordier. Et comme ça, elle reconquiert le cœur des Français, mais pas celui des producteurs de cinéma. Charlotte va rester 15 ans sans tourner au cinéma. Et le sida alors? Eh bien pendant 10 ans, il se tient à carreau. 10 ans. Elle fait des prises de sang régulièrement, elles sont normales. Et puis en 1995, elle a 27 ans, d'un coup, son taux de globules blancs s'effondre. Le processus est en marche. Et c'est son père qui, quelques mois plus tard, entend parler d'une nouvelle molécule qui vient des États-Unis, l'AZT. Et c'est lui qui obtient un rendez-vous avec le docteur Willy Rosenbaum. Il lui faut un peu de temps pour accepter de prendre le nouveau médicament, des cachets énormes et ronds, difficiles à avaler, impossibles à croquer, leur goût est épouvantable. Son père les lui pile tous les jours. Et ensuite, il les dilue avec un peu d'eau tiède et elle avale d'un coup. Et au bout de quelques mois, son taux de globules blancs remonte. Le virus recule. Pardon de ne pas avoir le temps de tout vous raconter. Les hommes qui la fuient, les hommes qui ont peur. mais Oscar, qu'elle rencontre en 1999, à qui elle dit tout et qui, 15 jours après leur rencontre, la demande en mariage. Et elle dit oui. Ils ont une petite fille, Tara, son bébé miracle, comme elle dit. Séro-négative. Le bonheur, qu'elle en profite. Mais l'un des problèmes avec la trithérapie, c'est qu'elle est très agressive pour le cœur. Ça fait 2 ans qu'elle gobe ses cachetons d'AZT, et un jour elle ressent une douleur atroce dans la poitrine. Comme un coup de poignard, et juste après, un deuxième. À l'hôpital Saint-Antoine, le diagnostic du cardiologue est terrible.
Vous avez fait 2 infarctus. Votre cœur est nécrosé, vos artères sont bouchées, votre cœur ne fonctionne plus qu'à 10% de ses capacités.
On l'hospitalise, elle continue à maigrir. Elle ne pèse plus que 36 kilos. Le médecin est absolument catégorique.
Il faut vous greffer, Charlotte. C'est votre seule chance.
Et donc, il faut trouver un donneur, un greffon. Combien de temps? Une semaine, un mois, 3 mois? Personne ne sait. Un mois passe, et le 4 novembre 2003, le téléphone sonne.
Allô? Bonjour madame, hôpital de la Salpêtrière. Nous avons un greffon pour vous, vous l'acceptez?
Oui.
Alors venez tout de suite.
Un donneur vient de mourir. Dans 6 heures, le greffon sera périmé. Charlotte entre tout de suite au bloc, et après 10 heures d'opération, un nouveau cœur bat dans sa poitrine. Et c'est après qu'on lui dit...
Charlotte, on aurait attendu 2 semaines de plus. Je vous cache pas, c'était foutu.
Suivent 6 semaines de rééducation. Réapprendre à se lever, à marcher, à se remuscler. Réapprendre à manger. Pas de sucre, pas de sel, pas de gras. Et surtout, en plus de la trithérapie. Elle doit prendre des médicaments anti-rejet. Elle a compté, hein, ça fait 25 comprimés par jour au total. C'est violent. Parfois, elle vomit le repas et les cachetons. Ajoutez à ça la cortisone qui la fait grossir de partout, des seins, du ventre, du visage. Une vraie grenouille, constate-t-elle en se regardant dans la glace. Mais le greffon a pris. Cela dit, dans la foulée, son couple explose. Et Charlotte se retrouve seule à Paris, avec sa fille, sans travail, sans projet, sans argent. On ne veut plus de moi. J'ai des idées noires. De temps en temps, on l'invite à une première. Elle voit bien le regard fuyant des gens. Je n'existe plus. On ne me demande même pas comment je vais. Tout le monde s'en fout. J'ai l'impression d'être invisible. Alors un jour de 2005, elle décide de ne plus attendre.
Le métier ne veut pas d'elle.
Eh bien, c'est elle qui ira vers les autres, vers tous ces gens qu'elle croise dans la rue et qui lui disent
« Oh, ben on regrette bien de plus vous voir à la télé, hein ?»
C'est à ce moment-là qu'elle écrit son premier livre, « L'amour dans le sang », dans lequel elle révèle sa séropositivité au grand public. 300 000 exemplaires, un best-seller. L'histoire sera adaptée à la télévision. Elle est heureuse. Elle a retrouvé l'amour du public. Et là, se produit quelque chose de tout à fait spécial. Ça se passe 2 ans après sa greffe cardiaque. À cette époque-là, elle vit avec le médecin qui la suit depuis sa greffe, Steven Leroux, son premier amour calme. Une nuit, elle fait un rêve terrible. Elle conduit une voiture à toute allure sur un grand boulevard battu par la pluie. Il y a un nouveau-né à l'arrière de la voiture. Il a les yeux fermés. Sa main sur le volant porte une bague qu'elle ne connaît pas. Des phares l'aveuglent, le rétroviseur devient rouge, rouge sang, et puis il devient noir. Et là, une immense lumière vient brûler toute l'image, et ses mains s'embrasent, et elle hurle.
Ah, ah, ah !»
Et elle se réveille. Steven est à ses côtés.
Charlotte, réveille-toi, réveille-toi. T'as fait un cauchemar. J'étais dans une voiture. Il pleuvait.
Calme-toi, calme-toi maintenant. Je suis là. Rendors-toi.
Mais attends, attends, c'était pas ma voiture. C'était pas ma bague non plus.
Et ce cauchemar revient. Et même le jour maintenant, elle a des visions de mort effrayantes. Alors elle en parle à sa psy. Et sa psy lui dit
« Charlotte, libérez-vous de toutes les interrogations que vous pouvez avoir au sujet de votre donneur. Je crois que c'est le moment. »
Et là, Charlotte reconnaît qu'elle a envie de connaître l'identité de son donneur.
« Et pourquoi vous avez envie de savoir ?»« Pourquoi ?» Pour remercier, pour comprendre d'où vient ce cœur, un peu comme on cherche ses origines.
Sur les conseils de son agent, elle va alors voir un voyant, Pierre. Le voyant lui prend la main.
Vous êtes enceinte ?
Non.
Je vois un nouveau-né.
C'est étrange, je sens une autre vie en vous. Et là, elle lui dit les choses.
J'ai été greffée du cœur.
Et elle lui raconte ses rêves. Et là, le voyant lui dit.
Je vois des lettres. Beaucoup de lettres et une enveloppe importante. Ouvrez cette lettre, elle est bleue. Hein?
C'est vrai, je reçois beaucoup de lettres depuis mon livre. Je crois qu'il m'en reste plus de 800 à lire. J'ai pas eu le temps.
« Il y en a une ou deux, bleues. Lisez-les. »
Troublant, très troublant. Elle en parle à Steven, bien sûr.
« Charlotte, la voyance n'existe pas. Trouve-moi un voyant qui donne le chiffre du loto, j'y croirai. »
Elle se met à fouiller dans le tas de lettres reçues chez son éditeur, à la recherche d'une lettre bleue. Elle ne va pas trouver de lettre bleue, mais une lettre blanche écrite à l'encre bleue. Je vous la lis. « Chère Charlotte, je connais le cœur qui bat en vous. Je l'aimais. Je n'ai pas le droit de vous contacter. Pardonnez-moi de m'adresser à vous de manière anonyme. Lorsque j'ai accepté que le cœur de mon épouse soit prélevé pour sauver une autre vie, je ne pensais pas un jour connaître l'identité de l'être receveur. J'aime voir en vous la preuve éclatante que tout cela a été utile. Ma femme avait un cœur en or, puisse-t-il vous porter bien et loin. Post-scriptum, si jamais tu me lis, tu me manques douloureusement à chaque instant. J'hésite à te rejoindre. Signé X. Incroyable. Terrifiant. D'autant qu'en fouillant dans le tas de courriers, elle trouve une deuxième lettre, plus précise encore. « Ma femme a été victime d'un accident à Paris dans la nuit du 3 au 4 novembre. Maintenant, Charlotte a un lieu, Paris, et une date. » Dans ces lettres anonymes, il y a donc la date de l'accident, la nuit du 3 au 4 novembre 2003, et le lieu, Paris. Et là, c'est pas compliqué, hein. Il y a qu'à chercher dans le journal Le Parisien. Le numéro du 4 novembre 2003 évoque un accident de voiture dont la victime est une femme de 30 ans qui serait décédée dans la nuit à l'hôpital Saint-Paul. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir le directeur de l'hôpital Saint-Paul.
Écoutez, madame. Même si un cœur a été prélevé ici cette nuit-là, il peut très bien avoir été greffé sur quelqu'un d'autre, loin de Paris. Cessez de penser avec certitude que cette femme est votre donneur. Ne vous focalisez pas sur son identité.
En ce moment, Charlotte joue au théâtre. Une pièce qui s'appelle « La mémoire de l'eau ». Un soir, elle reçoit dans sa loge un bouquet de violettes.
Qui a apporté ça? Un très bel homme. Cheveux bruns, yeux bleus, beau sourire.
Le lendemain, sa partenaire sur scène lui dit
« Charlotte, t'as vu ce soir l'homme au deuxième rang, là, comme il te bouffait des yeux, là ?»
Non, non, elle n'a pas vu, mais dans sa loge, des bouquets de violettes arrivent tous les jours. Un jour, un homme vient frapper à sa porte. Il s'appelle Yann. Il est architecte et il est fan. Il a vu ses films, ses émissions de promotion, lu son livre. Elle va boire un café avec lui. Et là, elle ose lui demander.
Au fait, vous n'êtes pas veuf ? Veuf ? Oh mon Dieu, non ! En plein divorce seulement.
Ouf, tant mieux. Ils se revoient le lendemain, le surlendemain, et commencent une belle histoire d'amour. Ça dure comme ça, un an. Et puis un jour, elle va fouiller dans ses affaires. Et elle trouve un dossier. Et elle ouvre le dossier. Dedans, il y a des coupures de presse qui racontent sa grève cardiaque. Et surtout, il y a un certificat de décès d'une jeune femme de 30 ans en date du 4 novembre 2003. Yann n'est pas divorcé. Yann était le mari de celle qui lui a donné son cœur. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Elle couche avec le mari de sa donneuse. Alors est-il amoureux ou psychopathe? Qui aime-t-il vraiment? Est-ce qu'il l'aime elle ou est-ce qu'il aime son ancienne femme? Charlotte laisse le dossier bien en évidence sur le bureau et elle s'en va. Elle va le quitter, bien sûr. Il la rappelle.
Charlotte, je veux te parler, même un instant.
Elle lui fixe un rendez-vous à l'hôtel Lutetia. Il arrive, il veut l'embrasser, elle refuse. Et il se met à parler.
Tu sais, j'aimais Virginie de tout mon cœur. Elle était tout pour moi. Le soir de l'accident, quand je suis entré dans sa chambre, son cœur battait encore. Mais son cerveau était mort. J'ai jamais pu savoir qu'il avait été greffé du cœur de ma femme. Et puis j'ai lu ton interview dans le journal. J'ai vu ton énergie à la télé.
Les lettres, Yann. Les lettres, c'était toi?
Non, quelles lettres?
Les lettres n'étaient pas de lui.
J'ai fait exprès de m'arrêter là, Charlotte Valandré, parce qu'en fait, je ne savais pas très bien quoi faire de cette fin de votre livre, qui nous laisse un peu en plan. Les lettres n'étaient pas de lui, elles étaient de qui?
Ah bah ça je peux pas savoir, mais je voulais surtout vous dire à ceux qui nous, vous qui nous écoutez, restez avec nous parce que la suite va être beaucoup plus drôle.
c'est là que je vous adore, c'est-à-dire que vous vous laissez pas plomber par, même par l'histoire.
La bah vôtre. La façon dont vous la racontez, si j'avais regardé mes pieds, on peut se laisser plomber. Mais, aujourd'hui, je vais super bien, donc.
On se laisse plomber. Donc les lettres n'étaient pas de lui.
Ils sont pas que plombants, mais de cœur inconnu, je pense que c'est aussi plein de. Enfin, tous vos livres sont pleins d'humour et plein de tendresse. Maintenant, après,
l'histoire en elle-même.
L'histoire en elle-même, oui, elle est. Je sais pas si elle est plombante d'ailleurs.
Elle est.
La façon dont vous la racontez, qui est finalement que je vois bien que vous les avez bien lus.
Merci.
Est vrai, mais c'est vrai que c'est. Bon voilà, donc maintenant on va bien.
Attendez.
La vie est belle.
Ces lettres étaient de qui?
Mais je peux pas savoir.
On peut y mettre l'hypothèse qu'elles soient de lui, de Yann.
Certainement, il y a des chances.
Au point où il était de...
Oui, de ses révélations, ce que j'avais découvert. Mais comme, après, dans les livres, on raconte son histoire, on raconte ce qu'on a vécu, et après, il y a toujours une toute petite part, enfin, en tout cas, dans les quatre premiers, je dirais, il y a toujours une petite part de roman, ça c'est normal, on peut pas, écrire mot à mot tout ce qu'on a vécu. Du coup, bien sûr que peut-être ce n'est pas elle, on ne peut pas... ça m'a rassuré de penser ça.
Ça n'est pas sûr que ce soit la femme de Yann.
Ça me rassure de penser ça. Il y avait plein d'évidences, enfin plein de preuves et de choses qui montraient que c'était certainement Virginie, puisque je l'appelle Virginie.
Ouais.
Mais après, au bout du compte, même si c'est 1%, 2%, 0,5%, comme disait le médecin, il y a un moment donné, on peut quand même jamais savoir.
Donc, comme il était un peu mytho.
Il était peut-être psychopathe aussi, finalement.
Vous êtes resté avec lui un petit moment quand même?
Non, là, à ce moment-là, j'ai arrêté et puis on s'est revu un peu, mais ça m'a vaccinée. Et puis comme j'étais déjà vaccinée de pas mal de choses adolescentes, Je dois vous dire que tout ça, en tout cas, ne facilite pas les histoires d'amour dans la vie d'une femme.
On sent un garçon quand même, même si on est très touché, si son histoire est vraie, on est touché par sa démarche, oui. Elle est bouleversante, mais néanmoins elle est perverse.
Je sais pas en fait ce qu'elle est, je sais pas si à sa place j'aurais pas fait la même chose. C'est difficile de rencontrer quelqu'un et de lui dire je pense que vous avez le cœur de la femme que j'ai perdue, mais j'aimerais qu'on aille dîner ensemble. Peut-être qu'à ce moment-là on n'aurait rien vécu du tout, vous même passez un an qui était quand même formidable, je serais certainement partie en courant.
Vous attirez pas mal des gens formidables, mais pervers.
J'en ai attiré, mais je vous dis que cette histoire,
elle a signé la fin.
Plus celle qui m'était arrivée adolescente, parce qu'il n'y a pas que celle avec Johan.
Il y en a d'autres avant.
Entre autres, il y en a un qui m'aimait beaucoup et qui m'a dit qu'il m'aimait trop, donc il me laissait, et puis il s'est suicidé le jour de mon anniversaire. Ouais. Donc voilà, plus une
c'était
première.
C'était juste avant Johan.
C'était avant Johan et une première expérience sexuelle qui s'est très mal passée, où j'ai fini à l'hôpital, anesthésiée, avec la personne qui vient pas me voir après. Donc ce genre de choses jeunes, quand on vient d'une famille en plus plutôt normale, équilibrée, même si on parlait pas beaucoup, parce que ça j'en parle aussi beaucoup, pas mal. Après on est greffé, après on vit ça, on met des protections, donc et après faut les faire tomber. Parce que c'était une armure que j'avais. Enfin, c'était même plus une armure. Je sais pas ce que j'avais d'ailleurs.
Avec le recul, vous avez donc raconté presque toute votre vie au grand public.
Ouais, pas mal. Surtout dans
beaucoup.
Puisque dans le dernier, je raconte aussi les moments plus difficiles.
Mais vous continuez de raconter livre après livre. Si c'était à refaire, vous le referiez? Ou il y a eu un moment où vous vous êtes dit, oh, j'ai déconné d'avoir livré mon intimité?
Dans mon dernier livre, je parle de l'optimisme vrai, puisque c'est un livre de développement personnel, et c'est basé sur le fait qu'à un moment donné, ça sert à rien de regretter les choses, puisqu'on ne vit pas dans le passé, et ça sert à rien de se projeter et de vivre sur des statistiques dans le futur, puisqu'on ne les connaît pas. Donc je vais pas dire que c'est arrivé en 5 minutes non plus de penser comme ça, mais aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, ou depuis un an, je vis l'instant présent. Il m'est arrivé bien évidemment des moments où je me suis dit oui, si j'en avais pas parlé, est-ce que j'aurais travaillé, est-ce que j'aurais ceci cela, mais voilà, comme je vous le dis, ça sert à rien. Et puis au moment, en 2005, quand j'en ai parlé, je venais d'être greffée. Il y avait eu des rumeurs à l'époque, en effet, de Jean-Claude Brissot, comme quoi j'avais le sida.
Il fallait le dire.
Donc ça s'était tassé parce que je n'ai jamais eu de signe extérieur de ça, et je continuais à sortir. C'était une époque où on sortait quand même beaucoup. J'avais bon appétit, on me voyait bien, les gens pouvaient pas se douter une seconde que cette rumeur ait pu être vraie. Donc elle est passée, elle est morte. Et mais au moment où j'étais greffée, que je pesais 35 kilos, je me suis dit, si jamais on me prenait en photo, qu'est-ce que les gens vont dire? Et j'ai eu peur que cette rumeur revienne et que là, pour le coup, on dise elle est vraiment malade. Donc c'est parti du principe que je préférais dire que j'avais été greffée. Et qu'en même temps, c'était peut-être le moment aussi de parler de ma séropositivité, puisque de toute manière, ça me bouffait la vie de pas pouvoir en parler.
Non, mais moi, je crois à la puissance de l'intimité, donc je me dis, waouh, une vie où tout est dit, de votre premier amour jusqu'à aujourd'hui.
Mais il y a des gens que ça gêne.
Tout est là. Alors
vrai.
Les prénoms ont changé.
Oui, bien sûr.
Mais.
Ben moi, ça me gêne.
Ça vous gêne pas.
Mais non,
vous faites avec.
C'est marrant,
c'est
mais après, dans mon intimité. Ouais. Personnel, je suis beaucoup plus pudique et même à apprivoiser, parce que je me livre très difficilement du coup maintenant. Mais c'était une sorte de survie en fait de raconter ma vie, de raconter ce que je cachais depuis des années. Si j'avais continué à le cacher, ça m'aurait bouffé de l'intérieur et je sais pas comment j'aurais fini. Donc de toute manière, ça valait le coup de le tenter. Et les gens ont été, bon, bien sûr, il y a eu de la curiosité, mais je pense que les gens ont été aussi très touchés parce que c'était au moment des cordiers et Myriam, il l'aimait vraiment beaucoup et je pense que personne pouvait se douter un instant que justement je cachais ça. Et du coup, ça m'a permis de faire des salons, d'aller à la rencontre du public, de voir l'amour qu'ils avaient pour moi. Ils m'ont beaucoup encouragée, ils m'ont beaucoup aidée, ils m'ont énormément aidée. Quand on fait un best-seller, évidemment, on gagne aussi sa vie. Donc c'était.
C'est bien que vous le disiez vous-même, non, parce que c'était... je l'aurais poussé là. C'est-à-dire qu'on voit aussi que le bouquin vient à un moment où vous avez besoin de sous.
C'était bienvenu aussi, mais on pensait pas. Moi, je pensais jamais qu'il marcherait comme ça.
Je voudrais qu'on revienne sur le personnage de Johan. Je pensais à Dominique Besnéard. Moi, je me dis que le type qui m'aurait fait rencontrer un être aussi finalement maléfique dans ma vie, Mais je lui en voudrais toute ma vie. Or, c'est avec lui que vous avez tourné l'adaptation pour la télévision de cette histoire. Vous lui en voulez ou vous lui en voulez
pas ? Le temps passe. Je me suis jamais posé la question, en fait. C'est peut-être quelque chose que j'ai encore à régler. Non, mais c'est vrai, en plus. Mais j'ai encore des trucs à régler, hein, même si j'en ai réglé pas mal. Donc, je me suis jamais posé cette question véritablement. Je me la suis posée par rapport à Johan, bien évidemment. Est-ce que je lui en veux, etc. Et puis, c'est pareil. Je me suis dit... Maléfique, le mot, je le trouve trop fort parce que il ne savait pas à cette époque. D'abord, on savait vraiment très peu de choses de cette maladie. Et je pense que c'était la psy qui le suivait, qui lui avait demandé de faire un test. Et il s'est trouvé que ce test était positif. Donc, elle lui a dit de me dire de le faire. Mais il n'a pas fait l'amour avec moi pour me contaminer. Donc, c'est quelqu'un qui se droguait.
Ouais.
C'est quelqu'un qui était malheureux. C'était quelqu'un qui était fragile, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, c'était un gamin, c'était quelqu'un qui me faisait attendre des heures avant d'arriver à notre rendez-vous, c'est quelqu'un qui s'amusait avec une voiture télécommandée. Non, c'est pas quelqu'un de maléfique. Et je pense que pour cette raison, je lui ai pardonné parce qu'il voilà parce que
l'intention
c'est
était
pas
généreuse.
Quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui savait pas aimer, qui manquait certainement d'amour,
qui souffrait
et moi de mon côté je devais manquer aussi de beaucoup de choses pour être capable d'attendre un mec pendant des heures et des heures sans lui dire va te faire voir. Donc on était fragiles tous les deux, on s'est rencontrés là-dessus
par contre il n'est responsable de rien.
Non, il est pour moi il est pas responsable.
D'ailleurs, il en est mort.
Oui, il est mort.
Au regard de ce qui s'est passé dans ces années-là, vous êtes une miraculée, parce que votre génération, contractant le sida dans ces années-là, fin des années 80, cette espérance de vie de 3 ans qui était annoncée...
Oui, vous dites 3 ans, et je pense qu'ils étaient même incapables de dire quoi que ce soit. C'était 15 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, ils ne savaient pas.
Et vous avez géré ça avec une forme d'insouciance ?
Oui, sûrement.
D'inconscience ?
Oui, aussi.
De jeunesse, quoi.
Oui, et puis j'ai senti que si je fonctionnais pas comme ça, je m'en sortirais pas. Donc de toute manière, ces trois éléments, il fallait les regrouper en un tour de main et il fallait fonctionner comme ça. Donc c'est un instinct de survie aussi.
Vous pensez que c'est ça qui a fait reculer le virus ?
Ah, moi, je ne différencie pas l'esprit du corps. Donc je pense que si j'avais passé 10 ans à me dire tous les matins que j'étais séropositive, à regarder, à écouter les statistiques, à me dire que, enfin, à voir que les gens mouraient autour de moi, que dès qu'on parlait avec quelqu'un, ils connaissaient au moins entre 1 et 10 personnes qui mouraient de ça, j'aurais pas tenu le coup. Alors qu'en fait, moi, je l'ai mis de côté, je me suis dit, tu vas rester tranquille, tu vas, voilà, on va être potes, mais on va pas se voir très souvent. Et j'ai passé mon temps à me dire que j'allais bien. Que mon corps allait bien.
Et
je me regardais dans une glace et j'allais bien. En tout cas, pendant 10 ans, et c'est ce que j'appelle aussi le début de l'optimisme vrai, pendant 10 ans, il s'est rien passé. Donc, en vivant normalement et en me disant que j'étais comme tout le monde et que rien n'avait changé, ça m'a permis de tenir 10 ans jusqu'à ce que les premières thérapies qui marchent, arrivent. Donc, oui, je suis forcée d'y croire.
Brissot, vous lui en voulez, lui?
Oui, je lui en veux forcément maintenant.
Parce qu'il révèle le secret.
Oui, mais je pense qu'il est plus malheureux que moi, au bout du compte, parce que...
Il se prive de vous.
Il se prive de moi, Vanessa Paradis était très bien, donc j'en sais rien, peut-être que moi j'aurais pas tenu le coup sur ce tournage. Mais ce qu'il a fait, la façon dont il l'a fait, en tout cas, est pas belle. Donc, et puis finalement, aujourd'hui, je vais pas dire... Je pourrais presque dire qui il est. Maintenant, je pense que j'ai une bien plus belle image et une plus belle âme
que
Jean-Claude Brissot. Donc, il l'a dit, mais c'est pareil. Je pense qu'il l'a dit parce qu'il était complètement... il était perdu, je pense, à partir du moment où je lui ai dit ça. Donc lui, comme tous les autres, et comme il devait entendre dire que... Enfin, il s'est peut-être dit, oui, et s'il nous claque dans les pattes pendant le tournage. Donc il en a parlé au producteur, qui, je pense, n'ont pas essayé de me rencontrer tout ça. Là où je lui en veux, à ce monsieur, c'est qu'il ne m'a même pas appelé pour me le dire. C'est que j'ai compris ça des mois plus tard. Donc là, oui, ça je trouve
et
ça.
Et donc,
pas
il y a cette rumeur. Et ce qui reste malgré tout un mystère, c'est est-ce que c'est la rumeur qui met en quelque sorte un terme à votre carrière à ce moment-là? Ou est-ce que c'est le fait que ça arrive à plein de comédiennes d'avoir un début de carrière?
Non, je suis sûre que c'est ça.
Que c'est quoi la rumeur ?
Que c'est la rumeur. J'étais très bien partie. Je vois pas pourquoi on me propose. À partir du moment où j'ai pas fait Noce Blanche alors que tout le monde pensait que j'allais le faire, et que c'était prévu comme ça, je pense que les gens qui se posaient la question, on a dû forcément leur dire, elle a dit ça à Jean-Claude Brissot. Mmh. Donc, et pourquoi quand je fais le casting, en effet, pour Les Cordiers jugés flics deux ans après, la productrice me dit, oui, mais vous vous droguez. Et j'ai relevé mes manches pour lui dire, bah regardez, j'ai pas de piqûre. Mmh. Et en plus, je suis quelqu'un qui, encore aujourd'hui, ne boit pas. Alors, il a dû m'arriver de boire à 16 ans, 17 ans, ou même avant, quand j'étais en Bretagne pendant les vacances, à 14, 15 ans, j'ai bu du whisky, oui, pour savoir ce que c'était. Mais depuis l'âge de 17 ans, j'ai très peu bu. Depuis 20 ans, je ne bois pas une goutte d'alcool. Je me suis jamais droguée. J'ai essayé la coke une fois à cause d'une fille à qui je vivais. Enfin, j'en ai pris 15 jours dans ma vie. Donc c'était vraiment injuste. Et finalement, tout ce qui me blessait énormément, c'était l'injustice qu'on me portait. C'était des choses. Comment on pouvait penser ça de moi alors que finalement j'étais tout l'inverse? Comment on pouvait? Et d'ailleurs, avec Johan, et ça me permet d'en parler s'il y a des jeunes qui nous entendent et moins jeunes, c'est que c'est beaucoup mieux d'être séronégatif que séropositif, bien évidemment. Et que moi, j'ai fait l'amour une dizaine de fois avec ce garçon, hein. Donc,
pas plus que ça.
Non. Donc, voilà, faites quand même très attention. C'est pas marrant du tout.
Est-ce que vous saviez que la prise d'AZT fragiliser votre cœur? Est-ce que vous aviez été informé de ça?
Non, pas du tout.
Parce que moi, c'est la lecture de votre livre qui me le fait découvrir, à l'époque.
Non, pas du tout. Non, je savais pas.
On le disait pas.
Non, et puis on s'en est peut-être aperçu quelques années après, pas forcément tout de suite. Et puis il y avait peut-être aussi, il y avait pas de génétique chez moi pour ça. J'aime à penser aussi qu'en dehors de l'AZT ou de la trithérapie, parce qu'il y avait pas que l'AZT que je prenais, que j'ai vécu tellement d'émotions dans ma vie, et comme je suis quelqu'un d'entière, donc quand ça va bien, ça va très bien, puis quand ça va vraiment pas, quoi. Mmh. Que je pense que mon cœur aussi, et même si c'est un muscle, et c'est un muscle qui était fatigué, à qui j'en avais fait voir de toutes les couleurs.
Mmh. Alors vous avez préparé à la relation psychologique avec le greffon?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Parce que là, on parle pas du Moyen-Âge, hein, c'est...
Non,
non, mais c'est ça.
Ça va faire 15 ans cette année. Ouais. De rien.
C'est au début des années 2000. Et au début des années 2000, on greffe un cœur à une jeune femme. Et on ne lui dit pas que peut-être ça va être compliqué pour elle de penser que ce cœur qui l'a fait vivre vient de quelqu'un d'autre.
Non, on ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas que la rééducation c'est dur. On ne vous dit pas grand-chose en fait. Hein.
Vous gardez quelle image des médecins, vous, qui les avez beaucoup fréquentés, qui continuent à les fréquenter sans doute?
J'ai simplement envie de dire à ceux qui ont besoin de se faire soigner ou d'être suivis, de pas forcément s'arrêter au premier qu'on vous conseille parce que c'est le plus renommé ou le meilleur.
Vous cherchez son médecin.
Il y en a d'autres qui sont très bons et il y a des gens qui sont humains, des médecins qui sont humains et sympathiques.
Donc faut le chercher.
Bah en tout cas moi je me sens mieux depuis que je les ai trouvés.
Ouais. Vous les avez pas toujours trouvés?
Non. Ils font souvent leur métier, bien sûr, ils nous guérissent, ouais. Mais après, ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps, si on le vit mal, et ils ont trop de choses à faire, donc ils ont d'autres gens à suivre, donc ils peuvent pas s'occuper de tout.
La vie dont vous amenez à connaître, ou peut-être, sans doute à connaître, puisqu'il restera toujours un mystère là-dessus, le nom de votre donneuse, qu'est-ce que vous pensez du coup de la loi qui l'interdit, et d'ailleurs de l'attitude du directeur de l'Hôtel-Dieu qui vous dit, mais non, la loi vous l'interdit.
Oui, mais la loi, elle l'interdit. Alors c'est vrai que je suis très partagée parce que quand j'ai voulu le savoir, ça aurait été beaucoup plus simple qu'on me le dise. Et ça m'a rassurée en tout cas de lever ce doute, enfin de penser en tout cas que c'est cette personne. Maintenant, je pense que c'est une bonne loi aussi parce que il vaut mieux se l'approprier le plus vite possible d'abord parce que c'est des opérations, quel que soit le la greffe, mais en tout cas celle du cœur, c'est très long, c'est plein de choses.
Donc, faut pas perdre d'énergie ailleurs.
Voilà, exactement. Mmh. Et du coup, je conseillerais en effet de pas perdre d'énergie ailleurs. Et si ces lettres m'étaient pas arrivées, si j'avais pas rencontré Yann, si j'avais cherché de mon côté, si je m'étais aperçu que cette personne, je sais pas moi, avait maltraité son enfant, était, j'en sais rien.
Oui. Vous êtes tombé sur.
Est-ce qu'on supporterait? Ouais. Moi, je suis pas sûre que j'aurais supporté de me dire que j'avais le cœur de quelqu'un qui était pas une belle personne, qui était pas quelqu'un de bien, qui était, je sais pas, ça aurait été très difficile pour moi, en tout cas.
Donc, a priori, la loi ne vous dérange pas?
Non. Non, sincèrement.
Vous préconisez qu'on la garde telle qu'elle? Puisque vous avez l'expérience de tout ça.
Je pense que peut-être on pourrait, à ceux qui le veulent vraiment, et si la famille en face est d'accord aussi, en ayant des discussions, des entretiens avec quelques, avec des gens, un accompagnement. Peut-être ça devrait être au cas par cas.
Vous croyez aux voyants?
Avant. Oui, j'y ai cru en tout cas.
Avant Pierre.
Avant Pierre, j'y croyais, mais on a tous envie d'y croire à un moment donné, je crois. Quand on va voir un voyant, de toute manière, c'est qu'on n'est pas très en forme en général, c'est qu'on a envie d'entendre des choses positives, sinon on n'y va pas, on n'a pas besoin. Donc j'ai aimé croire à des moments que quand on me tirait les cartes et qu'on me disait « oui, ça y est, ça arrive, vous allez travailler, vous allez rencontrer quelqu'un », bah on sort, on se dit « ah, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un ». Voilà, mais je trouve que le pendant de tout ça, c'est que si la personne est un peu précise, et ben on peut aussi attendre pendant un an, deux ans, dès qu'on rencontre un blond, ou dès qu'on rencontre quelqu'un qui a une situation, ou alors quelqu'un qui est, je sais pas, qui fait le sport qu'on nous a décrit dans les cartes, à ce moment-là, on va le chercher, alors qu'en fait, la plupart du temps,
d'accord, voilà,
c'est pas vrai.
Bon.
Bah oui, parce qu'on peut pas savoir. Si on pouvait prédire vraiment l'avenir, bah.
Mais là, il a touché juste.
Il était assez fort, oui, c'est vrai. Il était très fort, même.
La lettre n'était pas bleue. C'est-à-dire qu'avec les voyants, on veut toujours oublier ce qui n'est pas vrai, pour ne retenir que ce qui est bleu. Donc la lettre n'est pas bleue, mais l'écriture est bleue, donc ça nous va.
Ouais, mais le papier était un peu marbré.
Bleuté.
Ouais. Il y a des gens qui ont de fortes intuitions, il y a des gens qui sont très forts en psychologie, et de toute manière quand vous arrivez dans une pièce, il y a des ostéopathes ou des énergéticiens même qui peuvent vous dire à peu près ce qui est, ou même complètement ce qui est bancal chez vous. Donc pourquoi pas quelqu'un de très fort intuitivement ne pourrait pas vous dire ce qu'il ressent, si vous manquez d'amour, ils sentent plutôt que vous avez envie de travailler, voilà, mais Pierre était incroyable, on m'a souvent donné son numéro mais il voulait pas, donc c'est quelqu'un qui s'est retiré.
Merci Charlotte Valandré d'avoir accepté de revenir sur cette vie incroyable qui est la vôtre. Non, c'est pas fini. Parce qu'on a raconté dans l'histoire qu'un jour, David Bowie veut que vous soyez dans le clip. Vous avez tourné ce clip.
Ouais,
il n'est jamais passé en France.
Non.
Hein? Mais ça vous a peut-être ouvert un horizon.
Oui, parce qu'il m'avait dit que je devrais chanter.
Il vous avait dit que vous aviez une jolie voix?
Ouais, que j'avais une jolie voix et que je devrais chanter un jour.
Ah bah c'est devenu ça. Donc j'adore, c'est le single d'un EP comme on dit, donc un mini disque, un tout petit disque,
un demi album
de 5 titres.
Voilà, un EP. Je croise les doigts pour qu'il voit le jour un jour. Pour l'instant, moi, je l'ai en main. Je me suis autoproduite sur ces 5 titres, donc je le vends à la sortie de mes concerts ou je mets des posts sur mon Instagram pour ceux qui le veulent. Et c'est une envie que j'avais depuis l'âge de 15 ans en fait, de chanter. Et le cinéma est arrivé avant la musique, donc voilà, ma vie a été ce qu'elle a été. Et puis depuis un an, je revis parce que je retravaille, je retourne en tant que comédienne dans Demain nous appartient, parce que j'ai pu écrire ce dernier livre. Chaque jour, j'écoute battre mon cœur, où je parle d'optimisme, où je donne les clés qui m'ont permis de tenir debout jusqu'à aujourd'hui.
Et puis parce qu'il y a cette EP.
Et tout ça m'a permis aussi du coup de faire cette EP et de vivre enfin le rêve que j'avais et que j'ai toujours eu.
Merci beaucoup Charlotte d'avoir accepté ce moment-là, de revivre aussi tout ça à travers mon récit.
Bah, il était très bien fait, il m'a donné la larme à l'œil. Et puis pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, voilà, allez chercher en vous les ressources que vous avez. Si je m'en suis sortie, tout le monde peut s'en sortir. Et la vie est cruelle, mais elle est belle aussi.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.